L'esprit ouvert, chronique de la médiathèque.
On peut s'ouvrir l'esprit sans se fracasser le crâne.
Bonsoir, bienvenue à cette deuxième émission de la médiathèque. C'est un rendez-vous que nous vous donnons le troisième mercredi du mois à 18h. L'occasion pour chacun de nous de mettre à l'heure nos agendas, mais également le moment de vous parler de nos coups de cœur, de nos invités, nos projets à travers des rubriques très spirituelles.
Nous vous rappelons que la médiathèque est ouverte à tous du mardi au samedi et que l'inscription en est gratuite.
L'humeur du jour, une petite citation pour s'ouvrir l'esprit et l'appétit.
Quand un bruit vous ennuie, écoutez-le. John Cage. En 2012, on a fêté le 100e anniversaire de la naissance de John Cage. Compositeur et écrivain, John Cage, né en 1912, a révolutionné les conceptions traditionnelles de l'Occident sur la musique et la fonction de compositeur. Même si cette période d'anniversaire est terminée, 2013 verra encore de nombreux événements se produire autour de son œuvre, notamment au sein du Grimm et du GMEM à Marseille. John Cage est notamment l'inventeur du piano préparé, piano dont le son est modifié en plaçant divers objets sur ses cordes. Nous écoutons en ce moment un bref extrait de A Room, pièce pour piano préparé composée en 1943.
L'esprit du jour.
Après l'humeur du jour sous le signe de John Cage, voici l'esprit du jour. Une façon pour nous de vous présenter un de nos invités du mois. Aujourd'hui, David Le Polar.
Bonjour.
Donc David est parmi nous parce qu'il sera également dans la médiathèque avec nous, et donc vous, nous l'espérons, pour la fête de l'Internet qui aura lieu la semaine du 19 au 23 mars. David, vous êtes fondateur du festival DataBitMe et intervenez en tant qu'artiste et animateur d'ateliers multimédia pour l'association Tein Tebat. Est-ce que je suis juste quand je dis ça?
Ah oui, oui, tout à fait. Tein Tebat, c'est une chanson d'Otawan que je pense les auditeurs de 3DFM doivent connaître. C'est une référence internationale de la musique antillaise. Et donc, c'est vrai que nous, on agit plutôt dans le champ du numérique et on essaie de triturer le numérique un peu dans tous les sens pour se le réapproprier un peu et être un peu moins consommateur, un peu plus acteur. Voilà, ça serait un peu ça, le but de TNTB, c'est un peu d'essayer d'expérimenter des choses de manière à être plus responsable par rapport à toutes ces technologies et puis vraiment savoir s'en servir, transmettre les choses, ouvrir des espaces pour que les gens puissent se sentir moins démunis, moins candides, développer une espèce d'imaginaire autour de ces technologies.
Et est-ce que vous pouvez nous dire quelques petites choses sur votre festival?
Alors, DataBitMe, c'est déjà un temps d'expérimentation sur une semaine. En 2012, on a accueilli 22 artistes en résidence et ça a été plusieurs soirées et c'est vraiment un espace de recherche. On a quand même une audience ici sur Arles, ça a accueilli à peu près 700 personnes, mais on a surtout pas mal de gens à l'international qui regardent ce travail parce que on est dans des champs de recherche sur des nouvelles images, des sons plus bruitistes, on parlait de John Cage tout à l'heure, tout un tas d'expérimentations qui font que on essaie de repousser des limites et puis de servir des machines un peu différemment, être un peu moins esclave des machines. Plutôt que de jeter une machine électronique et que ça coûte une fortune à recycler, essayer de faire quelque chose avec, de manière à ce qu'elle devienne un outil de production de nouveaux objets sonores ou visuels, ou même textuels. Enfin, se servir, en fait, des technologies et pas être simplement consommateur et changer de télé quand on nous dit de changer de télé ou d'ordinateur quand il commence à plus bien jouer les vidéos sur YouTube, essayer de faire d'autres choses avec, trouver de nouveaux usages. Et voilà, quoi, c'est un peu le but du festival, transmettre des connaissances, essayer d'être vraiment impliqué et responsable par rapport à toutes ces technologies numériques qui sont hyper présentes. On a tous des téléphones de plus en plus puissants dans les poches, on peut faire de plus en plus de choses, voilà.
Bon, ben, c'est un très bon lien pour nous, parce que ce que vous venez de dire là concernant vos objectifs et un peu votre esprit, c'est également le nôtre à la médiathèque, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons voulu collaborer avec vous lors de la fête de l'Internet. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus quant à cette collaboration et comment vous allez intervenir cette semaine-là ?
Alors en fait, la médiathèque m'a proposé à travers Jean Palomba un travail autour d'un texte. Donc ça part vraiment de l'écrit, sachant que tout l'univers informatique est quand même sous-tendu toujours par du texte. Ça, c'est quelque chose que les gens ne se rendent pas compte, mais la simple image, une vidéo, c'est toujours du texte au final, dans un ordinateur, dans cet univers-là. Et donc c'était partir d'un texte, un texte qu'on n'a pas encore choisi, mais on est en train d'y réfléchir. Et ce texte, en fait, en collectivement, avec des gens qui vont être invités à venir à la médiathèque en atelier, on va choisir des mots, chacun va choisir un mot, et qui fera un petit texte dessus, un autre un son, un autre une vidéo, peut-être une photo aussi, et tout ça, ça va créer des liens, et ça va permettre d'enrichir le texte. C'est, on va vraiment essayer de faire un travail de lien entre des mots qui vont être dans le texte original, qui va ouvrir, je pense, un site internet, et qui va en fait permettre de naviguer dans l'imaginaire que tous les gens qui seront participés à ces ateliers, il y en aura trois, auront créé, et on fera aussi des liens entre les différents mots, ce qui fait qu'on va créer une espèce de toile, parce que bon, pour l'internet, c'était un peu le but, quoi. Et puis qu'en plus ça se passe sur internet, et je trouve que c'est un beau projet, parce que ça part de quelque chose de très simple, un texte, et à partir de là on va développer tout un imaginaire avec plein de médias, donc ça pose plein de questions, ça va permettre d'aborder plein de conception des médias, de comment on fait circuler les médias, qu'est-ce que c'est que de fabriquer un média, qu'est-ce que c'est qu'une photo, pourquoi c'est un média, pourquoi un texte est un média, enfin voilà. Essayer de se placer d'une certaine manière par rapport au texte, plus simplement en simple lecteur, mais aussi en acteur, en participant, en ajoutant de la richesse à ses contenus, en proposant son propre imaginaire à un texte qui était écrit par quelqu'un d'autre.
Bon, ben c'est très prometteur et nous ça nous ravit comme perspective. Donc merci David.
Mais de rien.
Et à très bientôt pour cette semaine de fête de l'internet du 19 au 23 mars à la médiathèque. Vous retrouverez le détail des activités que nous vous proposerons cette semaine-là sur l'agenda. Et puis, que dire d'autre ? Oui, nous sommes très heureux de cette proposition qui fait le tour de nos beaux soucis à la médiathèque, à savoir qu'on partira d'un texte littéraire et qu'on l'enrichira en animant ce texte par différentes couches, puisque en fait, ce qui sera proposé aux participants, c'est de créer des sous-couches de texte à partir du texte immobile de l'imprimerie.
On aime, et vous ? Et vous, la rubrique pour vous faire partager nos coups de cœur.
C'était Sur mesure par les Éoles de chez Auvergne Diffusion. Et moi, depuis cet après-midi, je vole avec les Éoles. Rejoins-moi dans l'espace avec ces deux donzelles qui donnent des ailes à l'élan. L'une, Annie Guinaud, tient un accordéon chromatique. L'autre, Amélie Denarier, un accordéon diatonique de chez Tonique. À les écouter, c'est comme des papillons dans le ventre. Qui a dit que cette année nous allons danser comme des singes ? Je me sens très primairement primate. Alors, avec les Éoles, disque sur mesure, allez-vous ?
À présent, un extrait de Une année à la campagne, un livre lumineux de Sue Hubel.
J'ai passé l'après-midi, aujourd'hui, à Califourchon, sur le nouveau toit de la grange, à aménager l'arête fêtière, c'est-à-dire à faire chevaucher les bardeaux destinés à couvrir la jointure de la double pente. Il eût été difficile de ne pas se sentir heureux là-haut. La migration automnale des papillons monarques, éblouissante créature orange et noire, avait commencé. Et nombre d'entre eux venaient volter à ma hauteur tandis que je travaillais. Le sumac, en bordure du bois, commençait à rougeoyer. Du toit, il était plus éclatant encore, et je pouvais en outre voir à l'intérieur du bois. L'ancien toit a été surélevé d'un mètre, et, debout, je peux voir au nord, au-delà de la rivière, par-dessus le moutonnement de collines boisées, beaucoup plus loin qu'avant. Après quelques jours de pluie, le ciel s'est dégagé et son bleu profond vient me rappeler que le Missouri fait partie de l'Ouest.
Alors ce livre, Une année à la campagne, de Sue Hubel, raconte le rêve de bien des intellectuels citadins, c'est-à-dire s'installer à la campagne. C'est l'histoire de ce couple d'universitaires qui achète une ferme isolée et commence ce qu'on appelle l'élevage des abeilles. Puis le mari s'en va et Sue, l'auteur qui raconte cette histoire, reste seul pour mener à bien cette tâche qu'ils avaient choisi de faire ensemble. C'est dans une écriture simple qu'elle nous donne à voir le quotidien de sa vie, en contact étroit avec la nature, se mettant légèrement à distance toutefois pour laisser le lecteur percevoir la beauté et la fragilité d'une telle existence sans qu'il ne soit submergé d'émotions. Nous la croisons au fil des pages, forte et confiante, mais aussi consciente des limites de sa condition, que ce soit au volant de son camion, sur les routes du Missouri, où elle va livrer son miel, mais comme on vient de l'entendre aussi, à Califourchon, sur le toit de sa grange, pour aménager l'arête fêtière, où elle travaille au milieu de ce vol de papillons monarques, orange et noir, en pleine migration, ou alors observant les oiseaux et les insectes au fil des saisons. Ses rapports avec ses rares voisins sont empreints de solidarité. Tout aussi simplement évoque-t-elle des moments qui lui tiennent à cœur, comme la naissance de son fils ou le départ de Paul. Bref, un livre magnifique et lumineux qui a été préfacé par Le Clésio.
Smile on her face, just taking in every glance. She loves the way they love her. She loves the way they love her. And she smiles. She loves every sweet talking lie. Trips on the wire as he's paying her compliment. She loves the way he loves her. She loves the way he loves her. And she smiles. She loves every sweet talking lie.
Surtout, ne vous fiez pas à la pochette sur laquelle on découvre la photo d'un jeune homme de bonne famille, désabusé et blasé. Cette galette n'est ni triste ni superficielle. En 1971, suite à la séparation des Zombies, son premier groupe, Colin Blunstone enregistre son album solo One Year. On y retrouve tout ce qui faisait déjà le charme des Zombies. Voix angélique, mélodie imparable et arrangement raffiné pour un petit chef-d'œuvre rock des 70s entre pop ensoleillé et pop de chambre mélancolique.
Lorsque la famille était réunie à table et que la soupière fumait, maman disait parfois, cessez un instant de boire et de parler. Nous obéissions. Regardez-vous, disait-elle doucement. Nous nous regardions sans comprendre, amusés. C'est pour vous faire penser au bonheur, ajoutait-elle. Nous n'avions plus envie de rire. Une maison chaude, du pain sur la nappe, des coudes qui se touchent, voilà le bonheur, répétait-elle à table. Puis le repas reprenait tranquillement, nous pensions au bonheur qui sortait des plats fumants qui nous attendaient dehors au soleil. Et nous étions heureux. Papa tourna la tête comme nous pour voir le bonheur jusque dans le fond du corridor. En riant parce qu'il se sentait visé, il demandait à ma mère « Pourquoi tu nous y fais penser à ce bonheur ?» Elle répondait pour qu'il reste avec nous le plus longtemps possible.
Voici raconté de la voix délicieuse de Félix Leclerc lui-même les récits d'une enfance merveilleusement simple et belle. Dans ce village englouti par la neige l'hiver, le tout jeune Félix court la campagne sur son traîneau à chien en compagnie de Fiodor. Fiodor, c'est l'enfant des rues à qui il donne des histoires comme on fait des cadeaux. « On ne sera pas toujours des enfants, » dit Fiodor, qui pressent, lourd comme l'orage, les jours plus tard, lorsqu'il faudra quitter le village, ou qu'une femme peut-être vous arrachera le cœur. Mais pour l'heure, le bonheur est là, encore. Avant le petit bonheur, le grand bonheur, tout au chaud de la maison, coude contre coude et pain sur la table. C'est ce que dit la mère en le montrant du doigt à ses 11 enfants. Dans une langue aux accents du Québec et de l'amour, Félix Leclerc nous prend à témoin des beautés de l'enfance, avant que celles-ci ne disparaissent derrière les collines, là où s'en vont aussi les chercheurs d'or qui jamais ne reviennent.
Et maintenant, notre coup de cœur image.
Allemagne, mère blafarde, d'après le titre d'un poème de Brecht, est un admirable portrait de femme dans une Allemagne dévastée par le nazisme et la guerre. Récit autobiographique, le film est avant tout un vibrant hommage à la propre mère de la réalisatrice, animée d'un formidable instinct de survie, avant d'être brisée par la souffrance et les privations. Allemagne mère blafarde est un voyage au bout de la nuit, où le salut viendra de l'amour qu'une petite fille porte à sa mère. C'est un film à part, sidérant, d'une force cinématographique telle qu'il provoque toujours un choc intense à quiconque le découvre. À noter que le film, descendu en flèche par la critique allemande lors de sa sortie, et invisible sur les écrans depuis longtemps, fait aujourd'hui l'objet d'un véritable culte.
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non mais Marine Le Pen, non mais tu le crois ça.
Ouais, tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio, je marchais dans la rue, il y a une fille juste devant moi avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis tout d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois?
Putain, Marine Le Pen, oh non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois pas, putain, Marine Le Pen, oh non mais Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois ça.
Vous venez d'entendre un rêve de Catherine, fait par lui le 20 avril 2005. Date qui donne son titre à la chanson où apparaît Marine Le Pen dans ce que l'on peut finalement appeler le cauchemar de Philippe K. L'album précédent de Monsieur K s'intitulait 8e ciel. Avec ce robot après tout, celui de sa consécration, force est de constater qu'il a franchi le continuum spatio-temporel pour une galaxie encore plus personnelle. Il n'est que de contempler la pochette où hommes et femmes évoluent en col roulé lycra lila et shorty immaculé, juchés sur des escarpins impropres à la marche pour s'en convaincre. Musicalement, cette production aux manettes de laquelle on trouve entre autres le pianiste canadien iconoclaste Gonzalez est brillamment cohérente. Embarqué donc dans ce monospace groovy, drôle d'entité disco-funk électronique tout-terrain, au travers de laquelle passe la voix maniérée de l'élégant K, ingénument bouffonne et qui vous fait la place d'un roi. Alors, roulez carrosse sur cette bande-son néo-nouvelle vague, sortilège quotidien, palais de glace déformante, dès lors parcourant vos oreilles, agrément rêvé de vos plus perfides pannes d'oreiller.
Et maintenant, pour les enfants.
Madame le Lapin Blanc, un album de Gilles Bachelet, édité au Seuil, pour les enfants à partir de 7 ans, et bien sûr leurs parents. Tout le monde connaît le Lapin Blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Mais connaissez-vous sa femme, Madame le Lapin Blanc? Gilles Bachelet nous présente la vie de cette lapine au travers de son journal intime. Pauvrette, elle a bien du mérite entre l'éducation de ses 6 lapereaux et son mari éternellement en retard et qui oublie systématiquement son anniversaire. La vie de famille y est contée à merveille, ainsi que les clichés entre hommes et femmes. C'est le décalage entre le texte sérieux et touchant et les illustrations pleines d'humour qui font la force de cet album, un album truffé de références aux livres de Lewis Carroll et à l'univers de Béatrix Potter. Cet album a remporté un prix au Salon du Livre de Montreuil en 2012. À déguster sans modération.
Dernier coup de cœur pour les enfants, l'album « Le meilleur papa du monde » de Sueli Menezes et Annika Ziems, paru chez Minédition. L'histoire se passe en Amazonie. Un petit Indien veut prouver à ses copains qu'il est capable de pêcher un énorme poisson. Il partira donc à la pêche avec son grand-père, qui lui enseigne si bien les secrets du grand fleuve et prendra rapidement conscience qu'il faut parfois faire des choix pour préserver la nature et y vivre en harmonie. L'auteur de ce livre, Sueli Menezes, est également fondatrice d'une association qui a pour mission de soutenir les enfants des quartiers pauvres en Amazonie. Annika Ziems, l'illustratrice, signe là son premier album pour enfants. Ses peintures sont très belles et donnent vraiment envie de voyager. Nous vous recommandons ce livre à partir de 5 ans, mais ce sera également un réel plaisir pour les grands, un livre à partager donc.
Et pour clore momentanément cette rubrique « On aime et vous », voici « Barbarian Beauty », concerto pour viol de gambe, « Il suonare parlante ». Des bohémiens, des gitans de l'Est dans des concertos baroques. Ah, les beaux barbares! Le titre de ce disque fait référence à la manière dont Telemann caractérisait les traditions musicales de Silésie et de Moravie, qu'il découvrit à l'occasion d'un séjour au service d'un comte. Il dira dans ses mémoires toute leur authentique et barbare beauté. Merci donc Vittorio Guglielmi qui nous propose un florilège vraiment réjouissant de cette musique.
Mais vous imaginez bien qu'on a aimé beaucoup d'autres choses. Venez les découvrir à la médiathèque. Vous les reconnaîtrez grâce aux petits papillons de Bristol qui les signaleront.
White Spirit, ça décape.
White Spirit, c'est un zoom sur un thème, un projet, un événement. Pour décaper les grandes oreilles, aujourd'hui nous recevons Claudine Pellet. Claudine Pellet, vous êtes metteur en scène, auteur, comédienne, à la Compagnie de l'Ambre, et vous avez, en marge de votre travail de comédienne, mené depuis des années un travail avec des femmes dans les quartiers, des femmes que vous avez rencontrées, un travail autour de l'écriture, de la peinture, et va être édité tout prochainement un livre issu de ces rencontres et de ces ateliers qui s'appelle « Moi, je veux écrire l'avenir ». Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette expérience ?
Oui, alors la Compagnie de l'Ambre, en parallèle à son travail de création, va à la rencontre des habitantes des quartiers dans cet objectif et ce désir d'aller au plus intime des femmes. Donc cette proposition d'édition de livres, « Moi, je veux écrire l'avenir », va se présenter à la médiathèque dans le lieu Le Café Littéraire, le mercredi 13 mars à 14h et à 18h, dans le cadre des Femmes en Mouvement, donc manifestation initiée par la ville d'Arles, dans le cadre des journées, nous disons des journées internationales des droits des femmes, et surtout dans le cadre aussi de deux ces battements d'ailes.
Est-ce que vous pouvez nous dire, Claudine, un petit peu plus précisément ce qui va se passer à la médiathèque le 13 mars avec ces femmes qui vont venir ?
Donc toutes ces femmes que j'ai rencontrées depuis 2002, ça fait donc 10 ans que je rencontre les femmes des quartiers de Bariolles, essentiellement le Trébon et Mastibère. Mais surtout Trébon et Bariolles. Donc ces femmes sont venues régulièrement pour peindre avec le plasticien Chris Voisard, donc un homme, sont venues travailler l'écriture, elles tiennent dans leurs mains un cahier comme étant le seul point fort de leur identité, donc le moi-je a beaucoup d'importance. Et donc ces 10 ans de travail vont être présentés enfin grâce à un financement de la DRAC PACA Accès et de la politique de la ville. C'est un livre qui va être présenté avec des photos, avec des peintures et avec les écritures, mais aussi des jeunes filles. Le jour du mercredi 13 mars, c'est un livre que nous allons offrir à ces femmes, que nous allons essayer de rassembler, puisque 10 ans, vous imaginez les rencontres qui ont pu être faites.
Donc, si je comprends bien, ces livres que vous allez remettre à chacune des femmes ayant participé à l'atelier vont retourner chez elles. Elles vont le ramener dans leur maison.
Oui, en fait, j'appelle ce livre un livre qui interroge l'intime, qui est un livre secret, poétique, et il va être un livre transmission. Donc il va aller à la maison, donc rencontrer les familles, rencontrer le mari et rencontrer les enfants, les fils, les filles. C'est un travail sur les mères et filles. Et je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'elles vont le garder ? Est-ce qu'elles vont ne pas le prendre ? Est-ce qu'elles vont le cacher ? Est-ce qu'elles vont le montrer ? Je ne sais pas.
Merci beaucoup, Claudine. Donc, rendez-vous à la médiathèque le 13 mars à 14h ou à 18h.
Pour décaper les petites oreilles et les grandes, dans le cadre de notre projet Lire pour grandir et entrer à la parentalité, nous avons invité aujourd'hui Catherine Strumeyer de l'association Mon Ami l'Artiste qui vient nous parler de l'exposition de Kakemono. Ces Kakemono illustrent le livre de Patrick Bannon, Il était une fois les filles, édité chez Actes Sud. Les illustrations ont été réalisées par Annelise Boutin. Ce sont des panneaux imprimés sur des supports souples et nous accueillerons cette exposition à la médiathèque du 5 au 23 mars prochain. Catherine, pouvez-vous nous en dire plus ?
Cette exposition est la première d'un cycle de 3 expositions prévues depuis 3 ans sur le lien mère-enfant. Nous commençons en mars avec Il était une fois les filles, un livre sur la mythologie ou les mythologies des différences entre filles et garçons, parce qu'on est fille avant d'être mère et que l'éducation reçue conditionne la façon dont on va être mère. Voilà, donc ces kakémonos sont effectivement réalisés sur des bâches souples qui seront exposées et il y en a 14.
Pouvez-vous nous parler de votre association, Mon Ami l'Artiste ?
Cette exposition a été créée en 2009 pour porter l'exposition Ben Ami Colère dans le cadre d'un colloque sur les violences. À l'époque, on s'est posé la question d'une association qui cesserait après l'exposition et on a fait le choix d'une association qui proposerait une à deux fois par an des manifestations sur le même principe, expositions et conférences, et éventuellement des concerts. Et cette année, on consacre l'année entière sur le lien mère-enfant avec trois expositions, les kakémonos de Patrick Bannon, les expositions de Laura Jonaskind sur le thème de l'identité, et en juin-juillet, Grégor Podgorski, qui a réalisé des photos sur les mères et les filles.
Pourquoi avoir choisi Patrick Bannon pour cette rencontre à la médiathèque qui, je le précise, aura lieu le samedi 9 mars à 15h?
Parce que Patrick Bannon est historien des systèmes de pensée, c'est un scientifique, mais c'est aussi un romancier et un essayiste. Il aborde des thèmes de société actuelle à travers l'histoire en mettant en lumière les enjeux de façon claire, pour le plus grand nombre, y compris les enfants. Il porte des valeurs humanistes qui sont partagées par l'association.
Merci Catherine. Nous vous attendons donc nombreux en famille le samedi 9 mars à 15h à la médiathèque. C'est ouvert à tous à partir de 6 ans.
À vos agendas.
Jeudi 21 février, cinéphile. Montparnasse 19 de Jacques Becker à 20h au cinéma Le Méjean, cycle Les peintres à l'écran.
Mercredi 6 mars, Les contes de la Maison Jaune à 15h avec Marie Vauzel de la compagnie Möbius.
Samedi 9 mars, dans le cadre de Lire pour grandir, conférence de Patrick Bannon sur la parentalité. De 15h à 17h, salle de l'hospice, et du 5 au 23 mars, exposition de kakémono proposée par l'association Mon Ami l'Artiste.
Dans le cadre de Femmes en mouvement, mercredi 13 mars, de 14h à 18h, présentation d'un livre élaboré lors d'un atelier d'écriture animé par Claudine Pellet avec des femmes de Bariol et des travaux de peinture avec Chris Voisard, salle de l'hospice.
Jeudi 14 mars, cinéphile, The Harder They Come de Perry Henzel à 20h au cinéma Le Méjean, cycle La musique au cinéma.
Jeudi 14 mars, café littéraire, échange avec les lecteurs autour de la poésie dans le cadre du printemps des poètes à 18h au café La Nuit.
Toute la semaine du 19 au 23 mars à la médiathèque, Fête de l'Internet, ateliers et jeux multimédia en collaboration avec l'association TNTB, Momarle, Martingale, rencontre autour des problématiques du libre, de la musique en ligne, des contenus libres de droit, présentation de sites, etc. Retrouvez-nous sur l'agenda de la médiathèque, sur le site de la médiathèque où vous verrez tout le détail des propositions.
Mardi 19 mars, dans le cadre de Femmes en mouvement, projection d'un film sur Louise Bourgeois à 18h30.
Proposé par l'association Asphodel.
Mardi 26 mars, de 14h à 17h30, projection d'un film culte des années 70 avec Delphine Seyrig, avec une présentation par Clémentine Feuillet de l'association French Lizard. Jeudi 28 mars, dans le cadre de Cinéphile, projection du film de Bertrand Tavernier Autour de minuit, dans le cadre du cycle La musique au cinéma, à 20h au cinéma Le Méjean.
Vous retrouverez les textes et les musiques de cette émission, ainsi que l'agenda et nos coups de cœur sur le site de la médiathèque. Passez donc nous voir.
Bonsoir, merci et à bientôt à la médiathèque.